7 heures. Le journal du 7 heures. Emmanuel Amani.
Bienvenue sur Radio de la Paix. Voici les titres de ce 7 heures. Défaite d'Aoussou Jeannot aux élections sénatoriales du samedi 16 septembre 2023 dans la région du Bélier. L'échec du candidat RHTP et actuel président du Sénat ivoirien, décrypté par le juriste et analyste politique Geoffroy-Julien Kouaou dans cette édition. Problématique de l'immigration clandestine, action entreprise par l'État et perspective d'un avenir pour remédier au fléau. C'est le thème de la conférence animée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, face aux jeunes, mardi 12 septembre, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Hors de nos frontières, nous nous intéressons à cet affrontement dans l'est du Soudan entre l'armée et une milice tribale hier lundi dans la soirée. Également dans cette édition, vous aurez la revue des titres des journaux ivoiriens avec Francis Cassis. Et enfin, le professeur Arthur Banga, analyste politique et enseignant en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, l'invité de la rédaction. Avec lui seront abordées les questions de la razzia du RHDP au sénatorial, la perte de terrain de l'opposition ivoirienne et l'interprétation pour la présidentielle de 2025, un entretien mené par Jean-Claude Comé. Bonjour à tous. La défaite d'Aoussou Jeannot, candidat RHDP dans la région du Bélier au sénatorial du 16 septembre dernier, était prévisible. Cet échec de l'actuel président du Sénat ivoirien serait dû aux distorsions au sein du parti dans la région. Ce sont les explications de Geoffroy-Julien Kouaou, juriste et analyste politique, joint par Soro Adams.
Oui, c'était une défaite prévisible, en ce sens que n'oubliez pas qu'il y a de cela à peine deux semaines, M. Aoussou Jeannot avait perdu l'élection des conseillers régionaux dans la même région. Il est donc évident qu'il n'avait pas une majorité consistante. Certes, il est un cadre du RHDP, mais les divisions internes du RHDP dans le Bélier étaient connues de tous. Et ces divisions se sont malheureusement traduites dans les urnes. Et aujourd'hui, M. Aoussou Jeannot, qui est le président du Sénat, a été battu. C'est la plus grande information relativement à ces élections sénatoriales.
Vous dites les divisions du RHDP dans la région.
Oui, les divisions, parce que quand on fait un décompte des conseillers municipaux et des conseillers régionaux de la région du Bélier, il y avait un léger avantage pour le RHDP. Donc normalement, il devait sortir vainqueur de cette élection. S'il a été battu, c'est la preuve que certains élus RHDP ne lui ont pas accordé leur suffrage.
Décryptage de Geoffroy-Julien Kouaou, joint par Soro Adams. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans le Tampouï, le RHDP victorieux des scrutins du 16 septembre dernier, par la voix du maire de la commune de Mans, Aboubakar Fofana, se réjouit du bon déroulement de la fin de ce cycle électoral dans la région. On en sait plus avec notre correspondant dans la région du Tampouï, Stéphane Adams.
C'est la liste RHDP qui bénéficie du vote sénatorial de la majorité des électeurs, soit 305 voix sur 442 votants, équivalent à un pourcentage de 90,26. Aboubakar Fofana, électeur RHDP, maire de la commune de Mans, salue leur victoire en ces termes.
Je suis très très heureux de voir que ces différents scrutins dans notre région se déroulent dans un climat apaisé. D'où j'ai retiré de cela la maturité de nos populations, la maturité en tout cas des hommes politiques. On s'est taquine, on est tous de différents bords, on est candidats les uns contre les autres, mais on reste des frères. Et ça, c'est ce que moi je retiens de cette journée électorale.
Le maire de la commune de Mans, Aboubakar Fofana, a toutefois tenu à faire ce rappel aux Mannois.
Notre liste s'appelait Rassemblement et Solidarité. Donc c'est de continuer le rassemblement. On a un idéal commun, on a un bien commun, on a une vision commune sur le développement de Mans, tous autour de Mans. Et c'est pour ça que nous continuons le développement de Mans ensemble. Parce que les besoins sont énormes. Il faut continuer les ouvertures de voies, il faut continuer les reprofilages, il faut permettre l'accès à des véhicules dans dans plusieurs quartiers à Mans. Il faut continuer les infrastructures scolaires, aussi continuer les infrastructures de santé. Donc nous, on va continuer le travail. Mais la priorité, comme je l'ai dit pendant mon mandat, ce sera les femmes, les jeunes et les infrastructures, bien entendu, viendront pour clôturer ces priorités-là.
Rappelons que le scrutin sénatorial était placé par le parti sous le signe du développement, la réconciliation, la solidarité et le rassemblement. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Nous parlons toujours sénatorial, récemment élu à la tête de la commune de Yamoussoukro pour le compte du PDCI RDA. Le maire Kwasi Kwame Patrice, alias Kakapé, a animé le samedi 16 septembre dernier un point de presse au siège de son parti à Yamoussoukro. Il a abordé au cours de cette rencontre certains grands chantiers de son futur quinquennat. Il a entre autres promis d'accroître les fonds propres de la mairie tout en ayant recours aux investisseurs privés pour réaliser ses ambitions. Témoin pour Radio de la Paix, Émile Yao.
Le maire Kwasi Kwame Patrice alias Kakapé a de prime abord remercié l'ensemble des populations de Yamoussoukro pour leur mobilisation en sa faveur lors des municipales du samedi 2 septembre dernier, non sans rendre hommage au président de son parti, Feu Henri Konan Bédié, pour la confiance placée en lui.
J'ai une pensée pour le président Henri Konan Bédié qui n'est pas là aujourd'hui. Nous lui avions fait cette promesse de ramener non seulement les postes de maire au PDCI, mais également les deux postes de sénateur à Yamoussoukro. C'est chose faite. Et symboliquement, nous partirons à Daoukro pour lui dire Monsieur le Président, mission accomplie.
Les collectivités, selon le maire de Yamoussoukro, ne sauraient que vivre des subventions de l'État vu leur modicité. C'est pourquoi il se propose d'accroître les recettes municipales.
Nous avons des voyous qui sont dans cette commune, qui collectent à la place de la mairie des recettes municipales. Nous allons nous en occuper rapidement pour que ces recettes municipales reviennent dans les caisses de la mairie. Ensuite, pour tout ce qui concerne les infrastructures à réaliser, nous allons avoir recours à des investisseurs privés. Nous allons donc signer des contrats en BOT avec eux pour leur donner une concession sur un certain nombre d'années. Ils feront l'investissement, amortiront leur investissement et les marchés reviendront à la mairie.
À ce sujet, les nouvelles semblent déjà très bonnes, a fait savoir le premier magistrat de la commune.
Nous avons déjà identifié des partenaires qui sont prêts à nous accompagner pour la construction de 5 marchés au niveau de Yamoussoukro. Nous avons également un partenaire qui est prêt à nous accompagner pour la construction d'un abattoir digne de ce nom.
Un travail d'organisation sera essentiellement fait dans un premier temps, y compris au niveau de la gouvernance de la mairie, a indiqué le maire Kakapé. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Au sujet de l'immigration clandestine, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, était face aux jeunes le mardi 12 septembre dernier. Il leur a demandé de privilégier l'entrepreneuriat au détriment de l'immigration. Une communication axée sur le thème problématique de l'immigration clandestine, action entreprise par l'État et perspectives d'avenir pour remédier au fléau. C'était à l'occasion de la première journée de célébration du 20e anniversaire du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, à l'amphithéâtre de la faculté de pharmacie à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Linda Ballier.
À l'entame de sa communication, le ministre de la Promotion de la Jeunesse a invité les jeunes à éviter l'immigration irrégulière pour se tourner plutôt vers l'entrepreneuriat. Mais pour lui, la stratégie qui pourrait freiner ce fléau est la suivante.
La première des choses à faire, c'est la sensibilisation en vue donc d'un changement de mentalité. Ensuite, il faut lutter sans merci contre les réseaux clandestins qui organisent donc les filières mafieuses pour faire partie donc ces jeunes. Et puis effectivement, il faut continuer à investir massivement à la jeunesse dans l'éducation, dans l'emploi, créer les conditions pour que des jeunes qui veulent se battre puissent trouver sur le sol ivoirien des opportunités pour s'épanouir sans être obligés donc de partir.
Toutefois, selon le ministre, pour améliorer les conditions de vie des jeunes, plusieurs perspectives dans le cadre de l'année de la jeunesse sont en vue. Écoutons Touré Mamadou.
Nous allons recruter 20 000 bénévoles pour les préparatifs de la CAN. Il y a déjà 10 000 volontaires qui ont été recrutés. Nous allons lancer d'ici 2 semaines la carte jeune pour 100 000 jeunes de notre pays. Avec cette carte jeune, ce sont des réductions allant jusqu'à 60% que les jeunes peuvent avoir dans tous les secteurs d'activité sur différents produits. Près de 30 000 jeunes dans les zones frontalières, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vont voir le début de leurs activités dès la fin de ce mois.
Notons que d'ici 2025, le programme Jeunesse du gouvernement PJGouv vise à impacter plus d'un million de jeunes, d'après le ministre Touré Mamadou.
Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans l'élan de booster l'intégration des questions de genre dans le budget public, a initié en partenariat avec le PAGEF la formation des formateurs en budgétisation sensible au genre, capables de former à leur tour d'autres structures du secteur public et privé en la matière. Cela concerne une 60aine de formateurs. Plus de précisions dans ce compte-rendu signé Mata Touré.
Si l'on part du principe que la budgétisation sensible au genre est désormais incontournable, une exigence même, d'une part pour les partenaires au développement, mais surtout dans le processus de budgétisation des États. On comprend alors son intégration dans les ministères techniques qui, tour à tour, forment à tour de rôle leurs formateurs via le projet d'appui à la gestion économique et financière, le PAGEF, dirigé par le professeur Bamba Lambert.
Peut-on réussir le développement de ces pays-là en mettant plus d'une moitié de la population de côté? C'est pas possible. Connaissant les traditions dans nos pays, les femmes sont moins impliquées dans les processus décisionnels. Également, elles sont défavorisées dans l'allocation des ressources. Donc, c'est des éléments qu'il faut absolument arriver à corriger si on veut réussir ce qu'on appelle le développement durable.
Cette fois, c'est au tour du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de voir former une soixantaine de ses formateurs. Florence Tano en est la directrice de l'équité et du genre.
Aujourd'hui, les femmes ont fait preuve de grandes connaissances, elles ont fait preuve de leur dévouement, de leur participation. Beaucoup de femmes leaders émergent en Côte d'Ivoire. Il était temps que nous bénéficions du budget sensible genre pour que dans notre pays, on ait dans tous les ministères un budget sensible genre.
Le pool de formateurs sera installé ultérieurement pour amener la Côte d'Ivoire sur les parvis de l'égalité du genre où très peu de pays africains siègent selon les représentants du ministère.
L'actualité internationale nous conduit au Soudan où hier lundi dans la soirée des échanges de tirs ont été signalés. Des témoins ont rapporté que des affrontements ont éclaté entre l'armée soudanaise et une milice dirigée par Sheba Darar, un chef de la tribu locale Béja dans le centre de Port-Soudan dans l'est du pays. Toujours selon la même source, le calme serait revenu peu après avec le déploiement des soldats de l'armée dans la zone à la suite de la suppression de points de contrôle mis en place par les milices, rapporte RFI. À présent, la revue des titres des journaux ivoiriens avec Francis Cassi. Bonjour Francis.
Bonjour Mel Emmanuel. Bonjour à tous. C'est par les commentaires de vos journaux sur les résultats combinés des récentes élections locales et sénatoriales que démarre notre revue des titres de ce mardi. Résultats des élections locales et sénatoriales, le RHDP dynamite tous les bastions de l'opposition. Titre à ce propos le matin. C'est ce que fait aussi le Patriote en écho. Élections locales et sénatoriales 2023, méthodiques, structurées, solidaires, organisées, RHDP, sont sérieux, a fait la différence. Mais sur le même sujet, l'avenir, lui, se veut moins euphorique et écrit. Échec dans le Bélier et le Boclé. Le RHDP doit tirer toutes les conséquences de ses revers. Pareil pour l'expression avec cette interrogation. Sénatorial 2023 dans le Bélier, défaite de Aoussou Kouadio. La solidarité a-t-elle manqué chez les oufétistes? Avant que pour sa part, le nouveau réveil ne salue la bonne santé du PDC IRDA dans ses localités. Résultat des élections locales et sénatoriales. Bélier, Ifou et Amoussoukro, le socle du parti préservé. Et puis la première activité véritable du PDC IRDA depuis le décès de son président Rico Nambidier, faites aussi l'info tout en suscitant quelques opinions de vos quotidiens de ce jour. Et à cet effet, le Bélier écrit, PDC IRDA, première réunion du président avec le secrétariat exécutif. Les points abordés. Ce sur quoi renchérit dernier monde titrant. Vie et activité du PDC IRDA, Koupli Boni a entamé ses consultations hier. Mais pour le nouveau réveil, après le décès du président Bidier, le PDC IRDA a la croisée des chemins. Sur le plan international, il est question de l'Assemblée générale des Nations Unies 2023 du 19 au 23 et le 26 septembre où la Côte d'Ivoire est représentée par son vice-président Kony Timoko Meilié. Et là-dessus, Fraternité Matin nous apprend. Forum sur les ONG, échange avec le secrétaire général de l'ONU, les activités du vice-président à New York. Et puis autre chose avec le mandat qui, à l'intention des bacheliers ayant le projet de devenir médecin, annonce. Université, suppression de l'école préparatoire, voici les nouveaux critères pour être orienté en médecine. Enfin, terminons notre revue des titres de ce 19 septembre par un anniversaire, celui de l'attaque en Côte d'Ivoire qui deviendra la rébellion. Et le temps d'indiquer à ce sujet, 19 septembre 2002, 19 septembre 2023, fortune diverse pour les ex-rebelles. Pareil pour la voix originale qui dit 19 septembre 2002, 19 septembre 2023, de la rébellion armée à la rébellion électorale. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci à Francis Cassis qu'on va retrouver à 8h pour le même exercice. Élections sénatoriales 2023, les résultats ont été publiés le samedi 16 septembre dernier par la Commission électorale indépendante et comme aux élections régionales et municipales du 2 septembre dernier, c'est le RHDP qui sort vainqueur de ces élections des représentants de la Chambre haute du Parlement avec 56 sénateurs élus contre 6 pour le PDCI et 2 sénateurs indépendants. Comment expliquer cette razzia du RHDP et la perte de terrain de l'opposition et surtout quelle interprétation peut-on faire par rapport à la présidentielle de 2025. Pour répondre à ces questions, Jean-Claude Comé reçoit dans le cadre de l'invité de la rédaction, professeur Arthur Banga, analyste et enseignant en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody.
Professeur Arthur Banga, bonjour.
Bonjour.
Les sénatoriales, c'est terminé. Quelles leçons vous en tirez par rapport à ces résultats?
En fait, les résultats des sénatoriales dépendent eux-mêmes des résultats des municipales et des régionales. Donc, on sait à peu près les forces qui doivent se dégager de ces élections. Donc, sans surprise, le RHDP, dans la dynamique des locales, a pu avoir 56 élus. Donc, ce qui montre aujourd'hui la domination, ou j'ai envie de dire l'ultra-domination du RHDP dans les joutes électorales. On voit aussi la résistance, malgré tout, du PDCRDA, qui, même si est passé d'une dizaine de sénateurs à 6 sénateurs aujourd'hui, je trouve quand même que c'est un parti qui résiste relativement bien et qui peut être le fer de lance de l'opposition. Après, les indépendants sont présents aussi. Et donc, en gros, les sénatoriales ont conservé la dynamique des élections locales avec une forte domination du RHDP.
Alors justement, cette domination, hein, pour vous, quel signal cela renvoie en termes démocratiques?
En termes démocratiques, parce que là, on a environ 87% des sièges qui sont détenus par le RHDP. Ça fait un chiffre quand même énorme et qui peut laisser transparaître des faiblesses de notre démocratie par rapport à cette ultra-domination. Puis après, ça montre aussi le malaise des partis de l'opposition, l'absence du PPACI et plus globalement de la gauche ivoirienne qui, pour moi, émane de l'émiettement et du manque de discours régulier de cette branche politique en Côte d'Ivoire.
Alors, l'Assemblée nationale est à dominante du RHDP, le Sénat également. Est-ce que, pour vous, cela peut permettre un véritable débat démocratique au sein de ces deux chambres du Parlement?
Non, le gros problème du Sénat, c'est qu'à l'état actuel, il n'y a qu'un seul groupe parlementaire qui peut se constituer. Parce que pour avoir un groupe parlementaire, il faut 8 élus, alors que le PDC n'en a que 6. Mais le chef de l'État, dans notre configuration, peut encore nommer 33 sénateurs. On espère qu'il pourra nommer des personnalités du PDCRDA de façon à pouvoir porter un groupe parlementaire. Voilà, parce qu'à partir du moment où il y a le groupe parlementaire, il y a le débat parlementaire. Parce que chaque groupe parlementaire aura la possibilité de se prononcer face au projet de loi, aux propositions de loi qui viendront. Donc ça alimente déjà le débat parlementaire. Il faut réfléchir aussi à faire progresser notre système électoral du point de vue du financement des campagnes, du point de vue des tours, peut-être des élections à deux tours qui vont permettre quand même à l'opposition d'être un peu plus représentée au sein du Parlement. Je pense qu'une opposition plus représentée au sein du Parlement est une chance pour la démocratie plus qu'autre chose. Donc il faut avoir une réflexion, mais la réflexion doit se mener au sein des partis d'opposition qui n'arrivent pas à occuper des terrains, n'arrive pas à émettre des idées. Mais il faut une remise en cause des oppositions. Aujourd'hui, est-ce que les oppositions ont des discours qui marient l'aspiration des peuples? Il faut un vrai questionnement des oppositions, parce qu'on a connu la grande gloire des oppositions en Afrique, avec le FPI de Laurent Gbagbo, dans certains partis comme le PDS au Sénégal, où il y avait une sorte de crédibilité, il y avait une sorte de discours cohérent. À l'époque, Laurent Gbagbo n'était pas encore président de la République, mais on savait déjà ce qu'il allait faire. Il parlait déjà des comptes gratuits, il parlait déjà de décentralisation. Mais aujourd'hui, quel est le discours que porte cette opposition? On ne sent pas aujourd'hui des propositions, on ne sent pas aujourd'hui les idées que vont porter l'opposition. À l'époque, on sentait leurs idées, on savait ce qu'ils allaient faire, ils drainaient du monde.
Alors, mais certains conseillers, hein, fraîchement élus, surtout des conseillers de l'opposition, avaient souhaité que cette élection soit décalée pour que les contentieux donc, électoraux, en ce qui concerne donc, les régionales et municipales, soient vidés avant ces élections. Est-ce que vous partagez cette position?
Oui, on peut la comprendre dans une certaine mesure, on peut la comprendre. Mais la CEI a répondu à cela. Mais aussi, on a une obligation constitutionnelle, parce qu'avec la nouvelle révision constitutionnelle, il y a la saison parlementaire qui s'ouvre en octobre. Et il fallait donc avoir ces élections-là pour pouvoir rester dans les clous de la Constitution. Mais je pense que les prochaines fois, il faut améliorer les dates, soit avancer d'un mois les dates, ou même de deux mois pour ne pas tomber en pleine vacances. Et puis, à partir de là, laisser le temps au recours avant de se fermer. Il y a un impératif constitutionnel.
Par rapport aux perspectives pour la présidentielle, les sénatoriales sont pratiquement les dernières élections avant 2025. Est-ce qu'on peut présager déjà, au vu de ces résultats, de ce qui va advenir de ces élections?
Non, je pense que le RHDP est en pole position. C'est le premier parti de Côte d'Ivoire. Mais est-ce le parti majoritaire de Côte d'Ivoire? C'est toute la question que le RHDP doit se poser aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on regarde les sénatoriales et locales, il y a une ultra-domination. Mais attention, c'est à peu près un tiers du corps électoral qui s'est mobilisé. Donc il reste encore deux bons tiers qui peuvent faire la différence en 2025. On ne sait pas où ces deux tiers-là vont voter, avec en plus les nouveaux inscrits qui viendront. Et donc, ça serait un autre match. Un autre match parce qu'il y aura d'autres enjeux. Et en plus, il y a deux ans d'ici à 2025, que vont faire les élus locaux RHDP? Est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Ça, c'est important. Est-ce que certaines crises sociales pourront avoir des solutions? Quels seront les candidats de l'opposition? Est-ce qu'ils pourront avoir un discours plus nouveau, plus attrayant? Est-ce que l'opposition va se mettre en bloc? Il y a toutes ces questions-là qui font que le match reste ouvert pour 2025, même s'il y a un favori. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que l'élection de 2025 est bouclée et légère.
Professeur Arthur Banga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était à l'instant professeur Arthur Banga, analyste politique et enseignant en histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, interrogé par Jean-Claude Comé. C'est ici que se referme ce journal, mais avant le rappel des titres. Défaite d'Aoussou Jeannot aux élections sénatoriales du samedi 16 septembre 2023 dans la région du Bélier. Nous avons eu dans cette édition le décryptage de l'échec du candidat du RHDP et actuel président du Sénat ivoirien par le juriste et analyste politique Geoffroy-Julien Kouao. Problématique de l'immigration clandestine, action entreprise par l'État et perspectives d'avenir pour remédier au fléau. C'est le thème de la conférence animée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, face aux jeunes mardi 12 septembre à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et puis, hors de nos frontières, nous parlions de cet affrontement dans l'est du Soudan entre l'armée et une milice tribale hier lundi dans la soirée. Fin de ce journal, prochaine édition à 8h.